Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Souad Boukorsta.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Quatrième et dernier jour de notre série consacrée aux révisions du bac SES. Lundi, nous nous sommes demandé si l'on pouvait concilier croissance économique et préservation de l'environnement. Mardi, c'est une épreuve composée sur les inégalités que nous vous avons proposées. Hier, enfin, nous sommes revenus sur les politiques de l'emploi, passant en revue les conceptions néoclassiques et keynésiennes du chômage. Un voyage théorique et pratique qui nous emmène aujourd'hui à la découverte du commerce international. À qui profite l'internationalisation des échanges? Voilà la question qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons revenir aux origines du libre-échange en compagnie de Philippe Ouattrelot, professeur de SES au lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge, en compagnie également d'Arnaud Parianti, professeur de SES au lycée Louis Pasteur à Neuilly-sur-Seine. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Philippe Ouattrelot et Arnaud Parianti, bonjour.
Bonjour, salutations économiques et sociales.
Bienvenue dans Entendez-vous l'écho, merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commencer cette émission, laissons la parole à ceux qui s'assieront devant une copie blanche dans moins d'un mois. Arjuna Andrade est allé recueillir les témoignages des élèves de Terminal ES du lycée Molière à Paris.
Je m'appelle Antonella, je suis en terminale ES et le bac approche et on est tous un peu stressés. Parce qu'il y a énormément de chapitres, les chapitres sont hyper lourds et hyper longs, que ce soit en histoire ou en SES.
On est entouré par l'économie et par la sociologie, du coup bah forcément si on s'intéresse un minimum à la politique de notre état, etc., la politique économique, bah je pense que c'est beaucoup plus simple ouais, que la philo ou les maths où c'est des trucs qu'on voit pas tous les jours.
C'est vrai qu'on nous donne vraiment la version scolaire en fait des choses. Mais ça nous permet de construire notre opinion personnelle sur certains phénomènes ou certains problèmes sociaux. En fait, ce qui est un peu bien, mais en même temps moins bien, c'est que la mondialisation, on le voit surtout en histoire aussi, et dans d'autres matières comme l'anglais et l'espagnol. Et donc parfois, c'est vrai que ça devient un peu redondant. Mais après, le fait qu'on en parle en écho et dans toutes les matières, ça permet une certaine complémentarité entre les chapitres.
Que vous inspirent ces paroles de lycéens, Philippe Ouattrelot ?
C'est vrai qu'il y a une complémentarité avec les programmes, et notamment celui d'histoire-géographie. Nos collègues, et quelquefois concurrents profs d'histoire-géo, ils parlent aussi de la mondialisation, du développement des échanges, de la triade, même s'il paraît que le terme n'est plus à la mode aujourd'hui. Enfin, donc oui, il y a le danger que ça soit un petit peu redondant, comme le dit une des personnes interrogées. Mais en même temps, moi je pense plutôt qu'il y a complémentarité et qu'on a un regard particulier qui est celui évidemment de l'économie.
Et la proximité de l'économie avec l'actualité rend cette matière plus facile, comme dit l'un des élèves, Arnaud Parianti.
Je crois que pour enseigner, enfin, l'utilisation des exemples est essentielle. Il faut que les exemples soient utilisés et les exemples, ils parlent. Ils parlent facilement en sciences économiques et sociales. C'est une grande, grande facilité que nous avons avec cet enseignement, c'est certain.
Alors cette semaine, nous avons réalisé, grâce à l'aide précieuse de professeurs de SES et de journalistes, deux dissertations et une épreuve composée. Aujourd'hui, c'est à l'un des exercices de l'épreuve composée, le raisonnement, qu'on appelle aussi EC3, que nous allons nous attaquer. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler, Philippe Ouattrelot, en quoi consiste le raisonnement et quelles sont les attentes des correcteurs par rapport à cet exercice ?
Alors le C3, donc c'est un raisonnement à partir d'un dossier documentaire. Vous avez deux ou trois documents et vous devez répondre à une question. Alors on pourrait se dire, c'est une mini dissertation. Sauf que c'est pas exactement la même chose parce que d'abord la question est beaucoup plus précise, injonctive que dans la dissertation où là le champ est plus large et où souvent l'élève doit trouver une problématique. Là on vous indique très clairement ce que vous devez faire. Les documents, eux, sont des documents où on peut trouver des idées, à l'inverse des documents de la dissertation, qui sont des documents bruts. Et puis les exigences par rapport à la forme même du devoir sont plus faible, j'ai envie de dire ça comme ça. En tout cas, on est plus souple sur cette forme. Mmh. Il ne s'agit pas de faire un plan en deux parties, etc. Mais on peut faire 3, 4, 5 paragraphes avec une mini-introduction.
Peut-être que c'est un exercice plus descriptif, de restitution de cours, plus qu'un exercice de problématisation, comme peut l'être la dissertation, Arnaud Parianti.
C'est comme ça, en tout cas, que ça a été conçu, oui. Disserter, c'est discuter. Là, souvent, on n'a pas vraiment à discuter, puisque... Normalement, tous les sujets maintenant commencent par montrer que. Mais montrer que, ça veut dire aussi qu'on attend une démonstration. Et si je peux revenir un tout petit peu sur la mondialisation chez les historiens ou géographes et en économie, et la différence, c'est qu'on est vraiment sur les mécanismes. On est vraiment sur les mécanismes, sur... Il faut absolument aller au-delà de la simple description.
Alors justement, l'intitulé du sujet que nous avons choisi aujourd'hui, le voici à l'aide des connaissances personnelles et du dossier documentaire, montrer que le commerce international présente des avantages pour les producteurs et les consommateurs. Alors quel est le premier réflexe qu'il faut avoir face à un tel sujet, Philippe Poitrelot?
C'est un sujet assez classique. Hein. J'ai repris pour ma part la liste des sujets qui sont tombés depuis 2013, c'est-à-dire les nouvelles épreuves du bac. Et c'est un sujet qui revient très régulièrement. Alors sous des formes diverses, avec des documents un petit peu différents, avec des phrases, vous savez, c'est comme dans Le Bourgeois Gentilhomme, Belle Marquise, d'amour, vos beaux yeux, mourir me font, mais ça revient toujours à peu près au même sujet.
Toujours les avantages et les inconvénients de la mondialisation.
Voilà, mondialisation, libre-échange, protectionnisme, ça constitue quand même une bonne moitié des sujets. Les autres sujets étant souvent sur les déterminants de l'internationalisation, de la production et des firmes multinationales hein, et les localisations des firmes multinationales. Donc oui, voilà, c'est des sujets très classiques.
Ah, non, pas rien de dire.
Oui, alors, il y a quand même tout de suite une question qu'on se pose. On nous dit pour les producteurs et pour les consommateurs. Alors, est-ce que c'est un piège hein, ou est-ce que ça va être la base d'un plan qui va tenir la route? Voilà, déjà, forcément, je pense que les...
Quel serait le piège?
Le piège, justement, de nous conduire à une opposition, en fait, assez factice. Parce que, par exemple, la baisse de prix des produits importés, ça donne des avantages pour les uns et pour les autres. Par ailleurs, la séparation entre producteurs et consommateurs a quand même un côté légèrement artificiel, puisque un consommateur est aussi un salarié, donc il est aussi concerné par la production.
On peut reprocher aux élèves de faire un plan grand 1 producteur, grand 2 consommateur.
C'est le risque. C'est le risque.
Oui, c'est un reproche mineur.
C'est pas ça qui va pénaliser les élèves. Juste une remarque. En fait, cette phrase, elle est celle qu'on trouve très précisément dans la troisième colonne du programme,
les indications,
ce qu'on appelle les indications complémentaires. La phrase, c'est « On analysera les avantages et les inconvénients des échanges internationaux pour les producteurs comme pour les consommateurs ». Donc, ça nous donne aussi une indication, et ça, c'est utile pour les élèves, sur la manière dont on fabrique les sujets. Les concepteurs de sujets, et c'est pas leur faire injure, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Et c'est normal, et puis c'est finalement pas plus mal.
Ils cherchent des sujets qui permettent de mobiliser un certain nombre de notions présentes dans le chapitre.
Qui sont cadrées.
Ça va plus loin que cela. Et les concepteurs de sujets sont obligés de tirer les intitulés de sujets des indications complémentaires du programme. Parce que la trouille, c'est celle du tribunal administratif, c'est-à-dire de quelqu'un qui dirait « Ah, ce sujet n'est pas dans le programme ». Donc là, on est couvert, on est sûr qu'il n'y aura pas de recours possible. Voilà. Et donc, cette logique conduit finalement à une liste de sujets extrêmement restreinte, ce qui fait que l'élève sérieux qui révise peut... très très bien imaginer la totalité des questions qui sont susceptibles de lui être posées.
On avait une collègue qui avait listé
la liste.
28 sujets possibles, quoi, en tout.
Oui, ce qui n'est pas si important que ça. Au début du micro-trottoir tout à l'heure, on a entendu un élève qui disait il y a énormément
c'est
de questions,
lourd,
etc.
Mm.
Il n'y a pas tant de questions que ça.
Non.
Voilà. Alors, pour réviser, il faut peut-être à la fois s'appuyer sur ses cours et à la fois s'appuyer sur des annales, Philippe Poitrelot, si en plus il n'y a pas tant de sujets que ça qui peuvent tomber.
Alors, moi, je dirais qu'il y a deux manières de réviser qui sont évidemment complémentaires. On parlait du programme tout à l'heure avec ces trois colonnes. Dans la deuxième colonne, il y a les notions qui sont à maîtriser. C'est le terme qui est utilisé. Ben ça, il faut les connaître. Hein. Je les ai comptées. On en a 77. Bon, ça fait
parmi
beaucoup.
Elles, le libre-échange.
Voilà, parmi elles, le libre-échange, etc. Bon, alors, ça, c'est la première chose. Il faut bien connaître ces notions, mais ça ne suffit pas. Parce que c'est pas une épreuve de dictionnaire, l'épreuve de SES. Il s'agit aussi de maîtriser un certain nombre de mécanismes, de raisonnements. Et donc, en fait, ce qu'on évalue prioritairement, même si le C3 est supposé mieux orienté, plus orienté les élèves, ce qu'on évalue, c'est la capacité à argumenter. Voilà, c'est ça le plus important. Et ça passe par la pratique et donc se projeter dans des annales, dans des sujets, voilà.
Eh bien justement, lançons-nous dans un cas pratique. Arnaud Parienti, comment est-ce qu'on pourrait définir le concept de libre-échange? On considère souvent Adam Smith comme le père du libre-échange. Il va effectivement démontrer dans son ouvrage publié en 1776, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, les effets positifs du commerce entre les nations.
Oui, alors, le terme libre-échange n'apparaît pas là, dans l'intitulé du sujet, si je me souviens bien. C'est les avantages de l'échange.
C'est les avantages du commerce international.
Voilà, on peut très bien développer le commerce international sans se fixer pour objectif d'arriver à un échange absolument libre. C'est-à-dire en se fixant malgré tout des limites. Alors, l'idée du libre-échange, c'est l'idée de la suppression des obstacles aux échanges. Alors évidemment, on pense tout de suite aux obstacles administratifs, c'est-à-dire les droits de douane et autres éléments de protectionnisme. Bon, cela dit, pour que l'échange soit libre, il faut aussi que les produits puissent circuler. Donc, il y a la question des moyens de transport. Et puis après, il y a bien d'autres questions. Sans vouloir sortir du sujet, on a bien vu quand on a voulu faire le marché commun en Europe qu'il suffisait pas d'abolir le protectionnisme apparent pour que immédiatement les échanges soient libres.
On va voir effectivement tous les mécanismes mis en place et notamment la question des transports, mais peut-être d'abord un mot sur Adam Smith, Philippe Attrelot, qui s'oppose aux physiocrates dans sa définition de l'échange, l'internationalisation des échanges.
Adam Smith est considéré comme le père du libéralisme, hein, puisque il va mettre en avant la liberté du marché. Alors en même temps, quand on lit attentivement Adam Smith, on s'aperçoit qu'il est aussi quand même un défenseur du rôle de l'État, mais ça c'est dans les chapitres ultérieurs. Mais on peut pas parler du libre-échange sans parler aussi de David Ricardo, 1817 si je ne m'abuse, principe de l'économie politique et de l'impôt, c'est celui qui va développer, alors ça c'est une notion qui se trouve dans les notions à maîtriser, de l'avantage comparatif. Pour Adam Smith, on parle d'un avantage absolu à échanger. Or, c'est plutôt Ricardo qui va lui développer l'idée que tout le monde gagne à l'échange, même si au départ, on n'a pas forcément un avantage absolu.
Alors, on va revenir sur ces notions dans notre plan, mais d'abord un mot sur le dossier documentaire. Il y a des textes et des graphiques qui sont présents dans ce dossier. Est-ce que ce sont des exemples factuels que les élèves peuvent utiliser tels quels pour illustrer leurs arguments? En l'occurrence, dans le cas de notre sujet d'aujourd'hui, on a un texte de l'Organisation mondiale du commerce qui va vanter les vertus du libre-échange, un graphique qui montre l'évolution du commerce international depuis 1995 et un texte de Paul Krugman sur les économies d'échelle.
Oui, ce qui est d'ailleurs plutôt intéressant parce que contrairement à la dissertation, là, ça n'est pas purement factuel. Non, on va trouver dans les deux textes, on va trouver des éléments d'argumentation qui vont aider à se remettre en mémoire ce qu'on a vu en cours. Éventuellement, un élève astucieux et qui n'aurait pas beaucoup travaillé peut peut-être trouver là le moyen de combler certaines de ses lacunes, mais personnellement, j'en doute un petit peu, parce que ce sont des textes malgré tout relativement brefs, et ce sont des mécanismes relativement complexes.
Dans notre jargon, on appelle ça des textes clignotants, c'est-à-dire des textes qui sont là pour faire penser à telle ou telle idée. Mais si on les a pas vus en cours, on va avoir quand même du mal. Donc, il faut réviser. C'est ça le message que j'adresse à travers votre micro à mes chers élèves de TES4.
Alors, commençons notre raisonnement. Dans une première partie, on pourrait, par exemple, expliquer les fondements de l'internationalisation des échanges. Et ce qu'il faut peut-être d'abord montrer, c'est que le développement des échanges s'inscrit dans une histoire longue. Qu'est-ce qui, au 19e siècle, d'abord, va permettre une forte croissance du commerce international, Philippe Attrelot?
Alors, je sais pas si les fondements du commerce international sont vraiment à mobiliser dans cette EC3, hein, dans cette épreuve composée-là. Mais la question que vous posez est effectivement intéressante parce que moi, j'ai envie de dire deux choses. Il y a plusieurs fondements au développement du libre-échange. Hein. Il y a évidemment les théories dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Ce qui est intéressant, par exemple, pour revenir 30 secondes sur Ricardo, c'est que Ricardo, c'est un député aussi et qu'il fait partie de l'anti-Cornos League et qu'en fait, il va justifier le libre-échange à travers sa théorie. Et donc ça nous permet de montrer aussi qu'il y a toute une dimension qui est politique et institutionnelle dans le libre-échange. Et on va le voir surtout à travers l'après-Seconde Guerre mondiale, 1947, le GATT, hein, General Agreement on Tariff and Trade, et puis ensuite en 95, l'OMC. Donc c'est aussi ça qui encadre le libre-échange. Hein.
Cette tendance, effectivement, va s'accélérer après la Deuxième Guerre mondiale, notamment grâce aux règles, vous l'avez dit, Philippe Poitrelot, imposées par le GATT, l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce.
La conférence de Genève en octobre 1947, qui est la conférence internationale justement sur la réduction des obstacles aux échanges, et ça va donner le GATT, hein, le General donc Agreement on Trade and Tariffs, qui n'est pas une organisation, à proprement parler. C'est un traité, alors c'est vrai avec des organes, un secrétariat, un directeur, etc., de fonctionnement, mais c'est un traité qui définit surtout ce qui nous intéresse ici, des règles du commerce international qui sont encore valables et qui ont été reprises dans le cadre de l'OMC. Alors les principales règles sont, on peut les rappeler rapidement, d'abord la clause de la nation la plus favorisée. Deuxième principe, la non-discrimination. Troisième principe, l'interdiction du dumping. Quatrième principe qu'on peut relever, l'interdiction des restrictions quantitatives. Et enfin, évidemment, il y a des réglementations sur les subventions qui sont, par exemple, totalement interdites normalement pour les subventions aux exportations de produits industriels.
Voilà les règles du GATT puis de l'OMC rappelées par l'économiste Jacques Généreux. Arnaud Parienti, qu'est-ce que ces règles vont permettre justement ?
Ça va permettre un très fort développement des échanges après la Seconde Guerre mondiale. On va revenir dans un premier temps à peu près au niveau d'ouverture qu'on avait dans les années qui précédaient la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier qu'il y a une première mondialisation entre 1880 et 1914. Et puis après, évidemment, ça va beaucoup, beaucoup dépasser ça, et en particulier à partir de 1995 environ. Cela dit, quand je pense aux élèves qui nous écoutent, je me dis que là, on est en train de faire un cours complet sur les échanges. Et très, très honnêtement, je me permets, on part hors sujet.
Il faut faire attention à ne pas aller dans le hors sujet.
Le sujet, ce sont les avantages de l'échange. Et là, on est en train de digresser en disant, ben voilà, quels sont les fondements de l'échange. Ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire.
C'est une longue introduction qui permet aussi à nos auditeurs qui ne passeraient pas le bac d'avoir accès aussi à un certain nombre d'éléments. Philippe Poitrelot, vous nous montriez un graphique qui montre l'accroissement de l'internationalisation des échanges.
Voilà, ça c'est... Alors, je peux vous montrer aussi les copies. J'ai donné un dernier devoir sur table à mes élèves, donc mercredi, hier. Et donc, dans le C2, cette fois-ci, vous avez un graphique qui est extrêmement classique.
Donc, le C2, c'est le deuxième exercice de l'épreuve composée.
Voilà. Vous avez un graphique extrêmement classique avec, d'une part, donc... l'évolution des échanges internationaux et d'autre part l'évolution du PIB mondial. Et alors ça c'est un graphique que vous pouvez trouver mais très souvent.
Et alors qu'est-ce que ça nous dit que le commerce international a augmenté plus vite que le PIB?
Mais après voilà, est-ce que on peut passer d'une corrélation à une causalité? Bon, la plupart du temps on saute le pas et on dit qu'effectivement l'un a attiré l'autre. Voilà, et que en tout cas les phases de croissance économique forte de l'après-guerre ont été aussi marquées par l'extension des échanges internationaux.
Et c'est aussi une période où des zones d'intégration régionale apparaissent à travers des accords comme l'ALENA passé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. On aurait pu penser que ces zones allaient ralentir les échanges internationaux, Arnaud Parienti, mais c'est le contraire qui s'est passé.
Alors on a à chaque fois les deux. On a des effets de création de trafic, des effets de détournement de trafic. Lesquels l'emportent, c'est pas toujours évident de le dire. Si vous prenez le cas de l'Union européenne, bon, bah, c'est vrai qu'il y a eu une ouverture croissante des pays. Par contre, on peut imaginer que finalement les entreprises européennes se sont centrées sur elles-mêmes, sur la conquête des autres marchés européens, et que ça a amené l'Europe à prendre un petit peu de retard dans la conquête de marchés comme le marché asiatique, qui avait un taux de croissance voilà. beaucoup plus rapide que les marchés européens. Donc finalement, est-ce qu'on est gagnant, perdant dans l'histoire de cette union régionale? C'est assez compliqué à démêler.
La mondialisation s'est en tout cas accélérée grâce aux progrès technologiques et techniques.
Nous sommes bien d'accord que le transport va s'accélérer et le coût du transport va s'effondrer à partir de la fin des années 50 avec l'invention du conteneur. C'est-à-dire le fait d'industrialiser, de standardiser, à l'image de ce qu'avait fait Ford avec l'automobile, le transport en boîte. Le fait de mettre dans des boîtes, d'élargir des canaux, d'avoir des bateaux toujours plus performants pour transporter, vont conduire à une réduction très importante des coûts de transport. De la même manière, les coûts de communication vont se réduire et cette réduction va s'accélérer encore plus à partir des années 80-90 avec le développement des technologies de l'information et de la communication.
Voilà, on entendait le professeur de SES, Lionel Laurin, qui était l'invité d'Entendez-vous l'écho sur France Culture le 10 octobre 2017. L'invention du conteneur qui permet d'éviter les ruptures de charge a constitué une véritable révolution à la fin des années 50, Arnaud Parianti.
Oui, enfin surtout dans les années 60-70, ça réduit les coûts, c'est sûr, ça réduit les coûts de transport et ça fait que désormais une entreprise peut considérer à peu près de la même façon d'avoir des échanges avec d'exporter par exemple à 500 km de chez elle ou à 5000 km de chez elle, il n'y a pas de différence significative. Si on regarde par exemple des objets à faible poids et forte valeur ajoutée comme par exemple un téléphone cellulaire, un téléphone portable, bah le coût d'un téléphone portable, le coût du transport d'un téléphone portable, c'est moins de 1,5%. Ouais, et pourtant, on fait ça par avion et pas par conteneur.
Et c'est ce qui permet le développement des firmes multinationales dans les années 60 qui vont développer ce commerce intra-firme, Philippe Poitrelot.
Alors oui, ça c'est une autre des caractéristiques du commerce international. C'est-à-dire qu'il a quand même changé de nature, on va dire à partir des années 80, avec ce qu'on appelle la DIPP, la décomposition internationale du processus de production. Aujourd'hui, c'est plus d'un tiers des échanges internationaux qui sont des échanges intra-firmes, à l'intérieur d'une filiale. Et en fait, aujourd'hui, on échange des produits semi-finis. L'exemple classique de l'iPhone est utilisé par tous les profs de SES, bien sûr, mais il n'y a pas que celui-là. On peut prendre des avions aussi. Les pièces viennent de au moins 5 ou 6 pays différents et sont assemblées dans un autre, etc. Oui. Donc c'est effectivement une des caractéristiques majeures du commerce international aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que la question des producteurs qui est au centre de notre sujet normalement, elle ne peut pas être penser sans cette référence aussi à un changement de nature du commerce international.
Arnaud Parianti.
Oui, et alors du coup, intra-firme ou extra-firme, on ne sait pas trop si ça a une grande importance. L'intra-firme, le problème, c'est que les échanges, ils se font à des prix qui sont des prix arbitraires, qui ne sont pas des prix de marché. Mais reprenons l'exemple du téléphone. Le premier fournisseur de Apple, c'est son principal rival, c'est Samsung. Concernant les téléphones. Donc en fait, dans un appareil Apple, vous avez des pièces Samsung. Bon. Et ça veut dire que, à la limite, ça aurait été des échanges intra-firmes, c'est-à-dire des unités de Apple situées en Asie, puis des unités de Apple situées en Amérique.
Ça ne change
qui échangent,
pas tant que cela,
ou que ça soit du Samsung et du Apple, ça revient à peu près à la même chose. Ce qui compte, effectivement, c'est cette division internationale des processus productifs ou fragmentation internationale des chaînes de valeur, comme on dit
voilà,
les deux expressions sont à peu près synonymes. En tout cas, à notre niveau, elles peuvent être considérées comme synonymes. C'est ça, surtout, le phénomène qui est massif et qui est complexe à analyser, hein, puisque d'une certaine façon, ça veut dire aussi que l'internationalisation des entreprises peut être un substitut aux échanges internationaux.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Soit on décide d'exporter davantage pour conquérir un marché, soit on décide de s'installer sur le marché qu'on veut conquérir. Et à ce moment-là, il n'y a pas forcément davantage d'échanges internationaux. Ou alors, il va y avoir des échanges de produits semi-finis. de voilà. produits intermédiaires, de biens intermédiaires qu'évoquait mon collègue M. Watrol.
On va revoir tout cela également dans la question des limites de la mondialisation. Mais d'abord, avant d'en venir au plan des consommateurs et des producteurs qui nous intéressent aujourd'hui, un dernier mot sur la rupture technologique et sur ses effets. Quel a été l'effet du développement de l'informatique à partir du début des années 90 sur le commerce international, Philippe Watrelot?
La circulation de l'information, elle a évidemment permis le développement du commerce international. Je dirais qu'elle a joué surtout un rôle, notamment sur quelque chose qui est un peu hors programme aujourd'hui, mais qui est très important à observer. Ce sont les flux financiers. Hein. Ça, c'est véritablement là.
Les services aux entreprises.
Et les services aux entreprises, bien sûr. Et sur la DIPP, la décomposition internationale du processus de production, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le développement de l'informatique a fait délocaliser, on en a tous fait l'expérience, hein, quand on fait délocaliser des fonctions de production qui sont un petit peu particulières. Par exemple, aujourd'hui, quand vous téléphonez à une hotline de votre fournisseur d'accès Internet, il y a de fortes chances que ça atterrisse au Maghreb ou dans d'autres pays francophones.
C'est pour ça qu'on parle effectivement d'internationalisation des biens, des services, des actions. Alors après cette longue introduction qui n'est plus une première partie, j'ai bien compris, note à mon bac de SES. On va revenir dans un instant sur d'abord les consommateurs et ensuite les producteurs.
Je sais pas si...
Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Vous écoutez Trade and Tariff des Dodos et nous sommes toujours en compagnie de deux professeurs de SES, Philippe Watrelot et Arnaud Parienti, sur France Culture. D'entendez-vous l'écho, notre sujet du jour porte sur l'internationalisation des échanges. Alors, je rappelle le sujet de notre raisonnement, donc le C3. Il s'agit de montrer que le commerce international présente des avantages pour les producteurs et les consommateurs. Alors donc, on pourrait consacrer une première partie aux avantages du commerce international pour les consommateurs. Et d'abord, il nous faut faire un détour par la théorie des avantages absolus développée par Adam Smith. Écoutons un extrait de La richesse des nations, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
Prenons l'exemple d'une manufacture très peu importante, mais où l'on a très souvent observé la division du travail, le métier d'épinglier. Un ouvrier non formé à cette activité, devenu un métier distinct sous l'effet de la division du travail, et non initié à l'usage des machines qui y sont employées, pourrait peut-être fabriquer, avec toute son industrie, à peine une épingle par jour, et ne pourrait certainement pas en faire 20. Mais de la façon dont se fait maintenant cette activité, non seulement tout l'ouvrage constitue un métier singulier, mais il est subdivisé en branches, dont la plupart constituent autant de métiers singuliers. Un homme tire le fil à la bobine, un autre le dresse, un troisième le coupe, un quatrième l'empointe, un cinquième le meule à l'autre bout pour recevoir la tête. Fabriquer la tête exige deux ou trois opérations distinctes. La frapper est une activité singulière, blanchir les épingles en est une autre. C'est même un métier en soi que de piquer les papiers. Et l'importante activité de fabriquer d'une épingle est ainsi subdivisée en environ 18 opérations distinctes. J'ai vu une petite fabrique de ce genre où l'on n'employait que 10 hommes, et où par conséquent, certains d'entre eux exécutaient deux ou trois opérations distinctes. Mais quoiqu'ils fussent très pauvres, et donc médiocrement équipés des machines nécessaires, ils pouvaient, en se donnant du mal, fabriquer à eux tous environ 12 livres d'épingles par jour. S'ils avaient tous travaillé séparément et indépendamment, ils n'auraient certainement pas pu en fabriquer chacun 20, ni peut-être une par jour. C'est-à-dire certainement pas ce qu'ils sont aujourd'hui capables d'exécuter par suite d'une division et d'une combinaison appropriée de leurs différentes opérations.
Arnaud Parientier, que peut-on dire de ce texte d'Adam Smith, extrait de La Richesse des Nations?
Oui, grand texte classique et probablement un plagiat de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert d'ailleurs. Ce texte nous explique effectivement que quand on peut diviser le travail, ça va permettre de réduire les coûts. Et ça, c'est un des grands avantages de l'internationalisation des échanges, de l'exportation, parce qu'effectivement, on va pouvoir opérer sur des marchés bien plus vastes, ça va permettre des économies d'échelle, et ces économies d'échelle vont permettre de réduire les prix. Mmh. Et ça, c'est un très gros avantage de l'échange international pour les consommateurs. Cette baisse des prix qu'on observe, par exemple, dans le jouet, dans le textile, etc.
Comment est-ce qu'on opère une économie d'échelle concrètement, Arnaud Parientier ?
Si vous vendez des voitures sur le marché européen au lieu de les vendre sur le marché français, vous avez un potentiel de consommateurs qui est bien plus important. Et ça va vous permettre d'amortir vos machines sur un bien plus grand nombre de ventes. Ça va vous permettre d'utiliser des techniques de production qui ne sont rentables que si vous avez une très très grosse production. Et ça va vous permettre aussi, tout en étant rentable, d'avoir davantage de modèles différents. Et là, on n'est plus tout à fait chez Adam Smith, on est même assez loin de chez Smith, on est chez Paul Krugman, c'est-à-dire les nouvelles théories du commerce international, qui nous expliquent qu'on va avoir des économies de variété. Par exemple, s'il faut au minimum 500 000 exemplaires par an d'un véhicule pour que celui-ci soit vendu à un prix correct, alors si vous êtes sur le marché européen, par exemple, ou sur le marché mondial encore mieux, vous allez avoir la possibilité d'avoir une dizaine de voitures concurrentes. Alors que si vous étiez sur le marché français, vous n'en auriez que deux.
Et ça pose la question de la nécessité pour les pays de se spécialiser dans telle ou telle activité productive. Philippe Poitrelot, comment est-ce que les pays choisissent leur spécialisation ?
Alors,
ça dépend de la dotation factorielle. C'est un des aspects qu'il faut mobiliser.
Les pays, qui sont au cœur du raisonnement, c'est plutôt les entreprises elles-mêmes.
Parce que Adam Smith va donner cet exemple du Portugal et du.
Non, ça c'est Ricardo.
Exemple du Portugal, voilà, et des draps.
Bah, oui, c'est-à-dire que le point de départ de la théorie, c'est l'avantage comparatif. Après, d'autres, je pense notamment à la fameuse théorie dite HOS, Ekscher, Olin, Samuelson, donc deux Suédois et un Américain vont développer ce qu'on appelle la dotation factorielle, c'est-à-dire qu'on va se spécialiser dans la production qui va utiliser le facteur qu'on a le plus en abondance. Bon, mais aujourd'hui, tout cela est quand même largement remis en question aussi, parce que on s'aperçoit que la Chine, par exemple, elle a une montée en gamme, elle a une remontée de filière, et que après avoir parié sur des coûts du travail très faibles, ben aujourd'hui, c'est le pays où il y a le plus de chercheurs, de dépôts de brevets, et donc en fait, aujourd'hui, on remonte sur la montée de la technologie. Donc c'est quelque chose qui est très fluctuant aussi, ça.
Pour bien comprendre la théorie, quelle est la différence entre la théorie des avantages absolus d'Adam Smith et la théorie des avantages relatifs que va développer David Ricardo?
Je ne sais pas si on peut parler de théorie à propos des avantages absolus de Smith. Hein. C'est plus une remarque qu'il fait en passant.
C'est un constat
assez pragmatique. pragmatique qui consiste à dire si dans un autre pays que le nôtre, les entreprises sont plus efficaces, eh bien achetons-leur ces produits, comme ça on les paiera moins cher et puis nous on va leur vendre ce qu'on est capable de faire de manière plus efficace qu'eux. Donc c'est on est au niveau du bon sens. Mmh. Alors que la théorie de l'avantage comparatif, c'est le premier raisonnement essentiel, fondamental, non évident en économie. Hein, une anecdote, le prix Nobel d'économie Paul Samuelson se voyait un petit peu agressé par un de ses collègues du MIT, physicien et prix Nobel lui aussi d'ailleurs, qui lui disait « Trouvez-moi un seul raisonnement non évident et vrai en économie. » Et le lendemain, il est arrivé avec la théorie de l'avantage comparatif de Ricardo en disant ça a 150 ans et pourtant...
Il n'y a pas besoin de grandes formules mathématiques.
Tout à fait. Et c'est non évident parce que ce qui est fantastique avec la théorie de l'avantage comparatif, c'est que ça nous dit que finalement, tout le monde a un avantage. Tout le monde a un avantage
à commercer. C'est ce qu'on appelle le gain à l'échange.
C'est le gain à l'échange. Et par exemple, les pays les moins développés, ceux qui sont les moins efficaces, ont aussi un avantage comparatif.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, Philippe Ouattrelot, l'exemple que va donner Ricardo entre, je crois, le Portugal et le Royaume-Uni, le vin contre les draps
C'est méchant, ça, quand même, de me rappeler ça comme ça d'entrée de jeu, de me demander de rappeler ça d'entrée de jeu. Bah, en gros, alors il faut rappeler que, pour l'anecdote, Ricardo, c'est un Anglais, mais, comme son nom l'indique, d'origine portugaise. Et c'est pas par hasard donc qu'il choisit ces deux pays. Et dans son exemple, le pays qui a l'avantage absolu dans les deux cas, bah, c'est le Portugal. Sauf que lui, ce qu'il montre, c'est que quand on va comparer le coût relatif des... on va comparer le coût relatif des différentes productions, on s'aperçoit qu'en fait, si on se spécialise dans un produit, on va gagner à l'échange puisqu'on va pouvoir échanger plus et obtenir plus avec cet échange. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler, si on se réfère à des théories plus contemporaines, un jeu à somme non nulle. Hein, c'est-à-dire que tout le monde gagne à l'échange. Mmh. C'est ça l'idée. Mais là, on est en train de s'éloigner quand même des avantages pour le producteur et le consommateur.
Alors, pour le consommateur, on l'a vu, il y a un choix plus large de produits et une baisse des prix. Ça fait deux avantages pour le consommateur.
Voilà. Oui. En gros, c'est autour de ça que ça va tourner. Et puis, j'ajouterais quand même non seulement un choix plus large, mais alors par deux mécanismes qui sont complètement différents. Le premier mécanisme qui est assez complexe, c'est celui qu'on a vu, c'est que grâce aux économies d'échelle, on peut produire dans des conditions rentables un nombre plus grand de produits différents. Le deuxième mécanisme qui lui est beaucoup plus simple, c'est que tout simplement, on va pouvoir se procurer ce qu'on est incapable de produire soi-même. Parce que pour des raisons culturelles, pour des raisons géographiques, ce n'est pas ce qu'on est capable de faire.
C'est le fait de manger des fruits exotiques.
C'est voilà. Ce genre de choses, voilà, tout à fait.
Il y a aussi les transferts de technologie qui sont importants.
Oui, mais alors ça joue plus pour le producteur, ça me semble-t-il, non ?
Enfin bon. Oui, mais aussi pour le consommateur.
Alors, Sylvie Ouattrelot, expliquez-nous ce que vous vouliez dire.
Oui, c'est le problème du
sépare producteur et consommateur.
Bah oui, mais c'est-à-dire que les transferts de ça permet aussi aux consommateurs et aux producteurs d'accéder à des technologies qui, sans cela, lui seraient interdites, quoi. Et ça, c'est effectivement quelque chose aussi d'important, hein, puisqu'il y a une grande diversité des produits qui sont offerts aux consommateurs.
Ça va permettre la diffusion de l'innovation de manière beaucoup plus rapide qu'avant.
Mais là encore, on voit que la différence, la distinction entre producteur et consommateur est assez artificielle. Bah, disons que ça bénéficie
l'innovation, aux deux. L'innovation, elle bénéficie à tout le monde et elle est d'abord facteur de croissance. Mais pour prendre une problématique actuelle, il est évident que les producteurs les plus avancés dans la diffusion de la 5G, par exemple, eh ben, nous devons faire appel à eux, même s'ils sont chinois.
Et aujourd'hui, effectivement, c'est Huawei qui est le leader en la matière avec toutes les questions que ça pose. Et d'ailleurs, ce sera l'objet de notre émission d'actualité de demain. On en reparlera de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Mais venons-en à notre deuxième partie consacrée cette fois aux avantages du commerce international pour les producteurs. Est-ce que ce sont d'abord les grandes entreprises exportatrices qui vont bénéficier de l'accroissement de la taille du marché, Philippe Ouattrelot ?
Pas seulement, je crois que ce qui est intéressant à noter d'ailleurs quand on parle des firmes transnationales ou multinationales, c'est qu'on a aussi un très grand nombre d'entreprises de taille moyenne qui sont concernées par la mondialisation. Moi, j'ai utilisé encore cette année un documentaire de Gilles Perret qui s'appelle « Ma mondialisation » et où on voit, alors il est décédé depuis, Monsieur Bontaz, qui fait donc du décolletage, hein, c'est dans la vallée de l'Arve. Et donc apparemment, le début du documentaire montre un brave entrepreneur. Bon, on va voir après qu'il n'est pas aussi sympathique que ça. Et puis on se dit, bah voilà, c'est une petite entreprise. Et puis après, on s'aperçoit que, un, il a une entreprise, une filiale en Tchéquie, en République tchèque. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'il a une autre entreprise en Chine. Donc,
ça ne dépend pas forcément de la taille de l'entreprise.
C'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des très grandes entreprises.
Et pour aller plus loin, on peut même dire que les entreprises qui s'adressent uniquement au marché domestique vont aussi profiter de la baisse des prix de production, ce qu'on appelle les inputs en anglais, Arnaud Parianti.
Oui, absolument. La diminution du prix des intrants, c'est quelque chose d'important. L'accès à des technologies étrangères, c'est quelque chose de très important aussi.
Et à contrario, on voit avec le protectionnisme.
Oui.
Exemple américain, par exemple.
Bien sûr, on voit bien.
C'est-à-dire relever ces droits de douane entraîne une fermeture.
Enfin, les économistes américains se sont lancés comme des fous dans l'étude des conséquences des hausses de tarifs de Trump. Et par exemple, en 2018, le prix des machines à laver a été un protectionnisme généralisé des États-Unis sur les machines à laver. En 2019, le prix des machines à laver a augmenté de 12% en moyenne aux États-Unis. Donc tout le monde est perdant, et y compris d'ailleurs les producteurs locaux. C'est pas évident du tout qu'ils soient gagnants.
Et donc l'idée, c'est que quand le pouvoir d'achat des ménages augmente, on assiste à un élargissement du marché, et c'est ainsi que se crée un cercle qui est censé être vertueux.
Il y a un autre aspect qu'on n'a pas du tout abordé pour l'instant et qui est un peu ambigu du point de vue, qui est très positif du point de vue des consommateurs, un peu ambigu du point de vue des producteurs, c'est l'augmentation de la concurrence. Mais l'augmentation de la concurrence, ça peut être très bien pour les producteurs aussi. Par exemple, quand ça supprime un monopole local. Exemple, la fin du monopole de Air France sur les vols intérieurs en France.
Pour les consommateurs, ça fait de toute façon baisser les prix.
Donc, mais c'est bien aussi pour tous les cadres qui voyagent et aux frais de leur entreprise.
Alors c'est intéressant de voir la question des avantages et des inconvénients, puisque le sujet est peut-être ne peut difficilement être centré que sur les avantages. Avant de venir peut-être aux limites de la mondialisation, il faut voir que le commerce international oblige effectivement les entreprises à être plus compétitives, et ça passe d'abord par la compétitivité prix. Comment est-ce qu'elle peut être obtenue, cette compétitivité prix, Philippe Poitrelot?
La compétitivité, en effet, ce qu'on apprend à nos élèves, nous, c'est qu'il y a deux phases de la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. La compétitivité prix, elle joue évidemment sur les coûts. Alors, souvent, le point immédiat qu'on voit, c'est les coûts salariaux. Mais il y a aussi bien d'autres coûts. Par exemple, tout simplement, le coût des transports. Hein, ça peut être très important. La fiscalité est aussi très importante. Il y a aussi la proximité avec les circuits d'approvisionnement. Il y a encore des entreprises où c'est quelque chose qui est très important.
C'est l'idée de délocaliser une entreprise en Chine pour investir le marché intérieur chinois, par exemple.
Alors, ça peut être aussi la proximité avec le marché, bien sûr. Mais ça, c'est plus une logique de marché qu'une logique de demande, qu'une logique d'offre. Mais pour rester sur la compétitivité prix, effectivement, il y a toutes les dimensions du prix. Alors on peut aussi jouer, alors ça c'est
le taux de change.
Sur le taux de change, j'allais y venir, qui est effectivement un point un petit peu ambigu, parce que normalement le taux de change est supposé refléter le pouvoir d'achat, la situation économique, mais par exemple les Chinois, encore eux, trafiquent un petit peu leur taux de change, ils sous-évaluent leur monnaie, ce qui leur donne un avantage...
À l'exportation. Et c'est ce qui explique que Donald Trump râle particulièrement par rapport au fait que le dollar est trop élevé. Alors expliquez-nous le lien entre effectivement les taux de change et les exportations, Arnaud Parianti.
Oui, par exemple, si une entreprise allemande exporte vers les États-Unis, je prends l'exemple de l'Allemagne, puisqu'après tout, on estime aujourd'hui que l'euro est sous-évalué d'à peu près 10 à 20% par rapport au dollar. Si une entreprise allemande exporte vers les États-Unis, l'euro est sous-évalué, ça veut dire que exprimé en dollars, quand on transforme le prix en euros en prix millions de dollars, eh bien, on a un prix qui est inférieur à ceux que peuvent pratiquer les producteurs américains. Donc, ça permet de gagner des parts de marché. Mmh. Par contre, là où on est perdant, bien sûr, c'est que sur les composants qu'on est obligé d'importer de la zone dollar, là, ces composants, ils vont coûter plus cher.
Et c'est là qu'on voit que cette interdépendance rend difficile une guerre commerciale, comme on peut le voir en ce moment entre les États-Unis et la Chine.
Oui, alors ça dépend de la situation des pays. En ce qui concerne l'Europe, les États-Unis, oui, c'est largement vrai. On a bien vu, par exemple, qu'une entreprise comme Airbus, pour se protéger contre les fluctuations de change, produisait de plus en plus de composants en zone dollar. Voilà. Mmh. Ça lui permet d'éviter d'être perdante. Et puis bon, on peut aussi acheter sur les marchés à terme pour se protéger, des choses comme ça.
Alors il y a la compétitivité prix et la compétitivité hors prix ou structurelle. Oui. Vous l'avez dit, Philippe Poitrelot, c'est une stratégie, cette fois de plus long terme. On va utiliser les profits pour innover cette fois.
Oui, c'est-à-dire que c'est ce qu'on, là aussi, on voit avec les élèves, dès la classe de première d'ailleurs. Hein, c'est l'idée que... pour contourner le marché, on peut aussi jouer sur la différenciation. Alors, ça veut dire quoi très concrètement ? Bah, ça veut dire qu'on n'achète pas, par exemple, un téléphone portable, on achète un iPhone de chez Apple. Et celui-ci est, entre guillemets, incomparable. Mmh. Hein, enfin, en tout cas, c'est ce que vous
c'est
voudrez.
C'est le design, c'est la marque, c'est le marketing.
On contourne en montrant que le produit a une demande en soi-même. Mais plus globalement, bah, évidemment, c'est s'adapter aussi au marché local. Par exemple, L'Oréal va avoir des centres de recherche qui vont être dans les différentes zones géographiques du monde, parce que ça va leur permettre d'adapter leurs cosmétiques aux différentes configurations de peau, aux différentes normes esthétiques, etc. Mmh. Donc c'est aussi ça, une compétitivité hors prix. Hein. C'est de l'innovation et puis c'est aussi de la différenciation.
Alors on a vu dans notre raisonnement les avantages procurés par le commerce international, mais alors est-ce qu'il faut inclure les limites du commerce international, même si ce n'est pas spécifiquement demandé,
Arnaud Parianti ? Alors là les choses sont très très claires, il ne faut surtout pas le faire, ça serait un hors-sujet total.
Par contre,
il est tout à fait possible d'imaginer qu'on ait un sujet de dissertation, où ouais. Là au contraire on inviterait le candidat à balancer les avantages et les inconvénients.
N'y a-t-il que des avantages à l'internationalisation des échanges ?
Typiquement le genre de sujet de dissertation. Là, ouais.
Bien sûr. Là, il faudrait pouvoir développer les inconvénients du libre-échange, effectivement. Mmh.
Ouais. Et alors, dans les inconvénients du libre-échange, ce qu'on peut commencer peut-être par dire, c'est que le libre-échange peut produire des effets pervers dans les pays du Sud, Philippe Poitrelot.
Ça peut entraîner des effets pervers dans les pays du Sud, notamment par des effets de domination, hein, bien sûr, de destruction des infrastructures locales.
Toutes les activités ne se valent pas de la même façon.
Évidemment, hein, on peut voir ça à certains niveaux dans de nombreux pays africains. Puis alors ou autres, hein, mais par exemple, il y a aussi des inconvénients pour les pays entre guillemets du Nord, hein, même si on voit d'ailleurs que les IDE, les investissements directs à l'étranger, profitent hein, aux pays développés. Mmh. Mais bon, c'est aussi les phénomènes, c'est le thème majeur des délocalisations et du chômage. Hein,
voilà. Oui. Arnaud Parianti.
La grosse difficulté, c'est que l'internationalisation va obliger à déplacer en permanence ses productions. Or, c'est quelque chose qui a un coût financier et un coût social énorme. C'est-à-dire qu'il va y avoir des destructions d'activités, des créations d'activités. Mais on n'a pas l'agilité pour changer de spécialisation et surtout pour les individus, pour changer de qualification. Oui. Donc il va y avoir des branches, on a des cimetières industriels, on a des friches industrielles qui se développent, etc. On a des gens dont la qualification brusquement ne vaut plus rien sur le marché du travail.
Surtout dans ce qui est considéré comme les vieilles industries en Europe, la sidérurgie, le textile.
Les changements sont les changements permanent en plus.
Hein, c'est ce qui est aussi en train de se produire déjà en Chine, par exemple, des zones entières aujourd'hui sont remises en question.
Oui, parce que le prix du travail est encore moins cher ailleurs.
Et surtout parce qu'il a beaucoup augmenté en Chine au cours des dernières années. Beaucoup plus vite que la productivité. Parce que ce qui compte, c'est de comparer l'évolution des salaires avec l'évolution de la productivité. Hein, c'est ce qu'on appelle le coût unitaire du travail. C'est une notion qui est vraiment importante.
Ce qui fait d'ailleurs que la France est... Contrairement à l'idée répandue qui est de dire oui, la France a un coût du travail très élevé, etc., il faut rappeler aussi qu'on a une productivité du travail qui est quand même parmi les plus élevées au monde. Et donc, ce qui fait aussi qu'on est quand même attractif à ce niveau-là.
Voilà. Et donc, les perdants, en fait, ce ne sont pas des pays. Il n'y a pas de pays perdant. Mais dans chaque pays, voilà, il y a des perdants. Au final, les pays qui s'en sortent le moins bien sont ceux qui ont le plus de mal à s'adapter, qui sont les moins souples, les moins capables de s'adapter. Et je pense que la faiblesse de la France par rapport à ça, c'est un certain manque de qualification de la main-d'œuvre.
Mais face à cela, est-ce qu'il n'y a pas des situations où le protectionnisme s'avère vertueux, et quelles seraient ces situations, Philippe Boitrelot?
Mais alors, c'est une tension qui a toujours existé, cette tension entre le libre-échange et le protectionnisme. Hein. On va pas revenir encore une fois aux théories, mais tout autant qu'on a parlé de Ricardo, il faudrait parler de Friedrich List et du protectionnisme éducateur. Ça semble une vieille théorie du 19e siècle, mais parlez-en aux Chinois ou encore auparavant aux Coréens du Sud.
Alors expliquez-nous, c'est l'idée qu'un protectionnisme ponctuel
c'est quelque chose qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Hein, voilà.
Au contraire, ça a des fondements théoriques qui ont été réaffirmés, avec l'idée notamment de coûts d'apprentissage et de courbes d'apprentissage. C'est-à-dire que, effectivement, une industrie naissante a nécessairement des coûts d'apprentissage. Au départ, les coûts unitaires sont élevés et puis peuvent devenir tout à fait faibles, et donc l'industrie peut devenir compétitive. De la même façon, il peut y avoir des effets d'échelle qui se font en refermant les frontières et en essayant de profiter du développement du marché intérieur avant de réouvrir les frontières. Il faut souligner que dans ces cas-là, on a affaire à chaque fois à un protectionnisme temporaire. Sinon, bon, il y a aussi le cas de ce qu'on appelle les industries stratégiques, mais c'est déjà plus confus. Exemple, l'exception culturelle.
Hein, alors, c'est-à-dire, expliquez-nous.
Le fait que la France a obtenu, à force de batailler, que les industries culturelles ne soient plus considérées comme des industries comme les autres, que les biens culturels soient considérés comme spécifiques, et qu'on ait le droit de protéger ces industries culturelles, parce que ça fait partie d'un héritage, d'un patrimoine commun, et qu'il y a, ça a des externalités positives.
Mais alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a finalement énormément d'entorses aux règles du libre-échange. On peut penser aussi aux subventions à l'agriculture dans l'Union européenne.
L'agriculture n'a jamais été incluse dans les accords de libre-échange. Ouais. Jamais, parce que politiquement c'est trop pesant. Voilà. Le poids électoral des agriculteurs est très élevé, et par exemple les Japonais payent leur riz 6 fois le cours mondial.
Et alors, Philippe Boitrelot, sur cette question du protectionnisme.
Alors, le protectionnisme aujourd'hui, enfin, on va plutôt parler de rapport de force. C'est-à-dire, l'illustration, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Trump et la Chine. C'est-à-dire que normalement, il y a les règles qui sont celles de l'OMC, hein, voilà, clause de la nation la plus favorisée, non discrimination à l'échange, etc. Et puis en même temps, on voit bien que c'est à celui qui montre les muscles le plus fort.
Et en l'occurrence, la première et la deuxième économie mondiale ont la liberté de ne pas respecter les règles de l'OMC.
On est en train de vivre une période qui montre bien que le libre-échange ou le commerce international, plutôt que le libre-échange, c'est pas le monde des bisounours, hein, c'est véritablement un monde où la guerre économique est rude et finalement elle fait des morts, hein,
et plus largement on traverse une crise du multilatéralisme tout qui est incarnée par Donald Trump.
Oui absolument, mais en même temps ça illustre bien le fait que le protectionnisme est généralement, il y a de bons arguments théoriques en faveur du protectionnisme, mais le protectionnisme est généralement fait pour de mauvaises raisons. Et c'est exactement ce qui se passe avec Trump. C'est-à-dire que Trump a voulu protéger un certain nombre de clientèles électorales. Et le résultat, c'est qu'il désavantage un certain nombre d'entreprises américaines. Walmart, par exemple, fait partie des grands adversaires du protectionnisme. Les GAFA également. Et en fait, il est probable que les mesures de protectionnisme prises par Trump vont se révéler contre-productives pour l'économie américaine.
D'autant qu'il y a des mesures de rétorsion qui sont prises par la Chine, qui entraîne le monde semble perdant.
Vous avez tout à fait raison. Ceci dit, même si on faisait attraction de ces mesures de rétorsion, en soi, ça revient à renoncer aux bénéfices du libre-échange que nous avons développé depuis trois quarts d'heure. Et de fait, c'est contraire à l'intérêt général.
Alors, on arrive au terme de cette émission. Peut-être un dernier conseil, Philippe Boitrelot, à donner aux lycéens 4 semaines du bac sur ce sujet, ou peut-être plus largement sur les révisions.
Alors, plus largement sur les révisions, moi, je vais réutiliser le conseil que je donne à chaque fois. Ne pensez pas au prof quand vous écrivez. Pensez à quelqu'un qui n'a pas de connaissances précises sur le sujet. Ça, c'est très important. Et ça va vous obliger à être le plus précis possible dans votre argumentation. Voilà. Si vous pensez au prof, bah, vous allez vous dire, mais ça, il le sait déjà, etc. Donc, c'est pas la peine. Voilà. Le destinataire n'est pas le lecteur et il faut vraiment, vraiment faire un gros effort parce que ce qu'on évalue avant tout, c'est votre capacité à argumenter.
Et en même temps, il faut avoir en tête les attentes des correcteurs pour pouvoir restituer les différentes parties du cours.
Oui, je crois que le plus grave risque d'un élève, surtout d'un élève un peu sérieux qui a travaillé,
c'est de réciter tout son cours.
C'est le hors-sujet, notamment parce qu'il sait beaucoup de choses, il veut absolument les sortir. Et donc, il faut absolument que les révisions soient divisées en deux parties. On apprend et surtout, on travaille sur les exercices.
On exploite.
En faisant des sujets à blanc, etc.
Très bien, et ben ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'une idée qui a, semble-t-il, émergé au cours de cette campagne pour les élections européennes, celle de la création d'une banque européenne pour le climat.
Absolument, une idée qui n'est pour autant pas tout à fait nouvelle, puisque cela fait des années que le climatologue Jean Jouzel et l'économiste Pierre Larouturou militent pour l'instauration d'un pacte finance-climat et la création d'une banque publique européenne du climat. Celle-ci pourrait ainsi fonctionner sur le modèle de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, créée en 1991 pour accompagner les pays d'Europe centrale après l'effondrement du bloc soviétique. L'objectif étant de mobiliser suffisamment d'argent pour relever le défi de la transition écologique et énergétique avant qu'il ne soit trop tard. En l'espèce, la Cour des comptes européenne estime que si l'UE veut tenir ses engagements en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, soit une baisse de 40% d'ici à 2030, il lui faudra investir 1115 milliards d'euros par an pendant 10 ans. En France, il faudrait environ 40 milliards d'euros par an pour financer la rénovation énergétique des bâtiments, les infrastructures de transport bas carbone et la production d'électricité renouvelable.
Or justement, ce qu'expliquent Pierre Larouturou et Jean Jouzel, c'est que cet argent ne pourra être mobilisé sans véritable engagement des pouvoirs publics.
Exactement. Il rappelle d'ailleurs que la Banque Centrale Européenne n'a pas hésité à injecter plusieurs milliers de milliards d'euros pour sauver les banques au lendemain de la crise financière de 2008 et maintenir l'activité économique jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a donc pas de raison qu'un tel mécanisme ne puisse être utilisé pour lutter contre le réchauffement climatique, si ce n'est peut-être des choix politique et des intérêts économiques. C'est d'ailleurs devenu l'un des slogans repris à droite comme à gauche au cours de cette campagne. Si le climat était une banque, nous l'aurions depuis longtemps sauvé. La banque pour le climat pourrait ainsi être capitalisée grâce à la création monétaire et permettrait de fournir à chaque État membre des prêts à taux zéro jusqu'à 2% de son PIB. Le pacte finance climat permettrait ainsi de dégager 300 milliards d'euros par an, dont 200 sous forme de prêts bancaires et 100 sous forme de subventions. Mais grâce à l'effet multiplicateur, les prêts permettraient également d'attirer jusqu'à 800 milliards d'euros de fonds privés, permettant ainsi d'atteindre l'objectif annuel des 1100 milliards d'euros.
Certains estiment néanmoins que le problème ne vient pas tant du manque d'argent, aujourd'hui disponible en grande quantité, que de sa mauvaise utilisation.
Oui, c'est notamment ce qu'explique l'économiste Christian de Pertuis qui ajoute que l'enjeu essentiel aujourd'hui est de réorienter les flux financiers existants vers des investissements verts. Cela peut passer par des incitations et des garanties publiques, mais aussi par un fléchage des investissements grâce à un prix carbone suffisamment élevé. Mais si une banque pour le climat peut constituer un outil efficace pour canaliser ces financements, la question de leur utilisation reste posée. Ainsi, l'économiste Thomas Porcher pose la question des critères qui seraient retenus pour sélectionner les projets à financer et pointe l'importance de s'accorder politiquement sur les priorités. Mais surtout, l'économiste s'interroge sur le risque de voir ressurgir en contrepartie de ces financements les dogmes de l'Union européenne sur le contrôle des déficits et l'austérité, aujourd'hui inscrits dans les traités et qui empêchent la mise en œuvre de toute politique ambitieuse en matière d'environnement. Avant de s'intéresser aux mécanismes et aux dispositifs pratique, c'est donc une question éminemment politique qui déterminera le succès ou l'échec de la bataille écologique.
On se quitte avec Morrissey et son titre Spend the Day in Bed, extrait de l'album Low in High School. Merci beaucoup Philippe Ouattrelot et Arnaud Parianti de nous avoir aidés à comprendre les rouages du commerce international. C'est la fin de cette série consacrée aux révisions du bac SES. Mais pas de panique, toutes les émissions sont disponibles sur notre site franceculture.fr et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Et demain, nous sommes de retour à 14h pour un débat d'actualité consacré à la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. Excellente journée et à demain.